La philosophie. Une émission proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Une émission spéciale de Osons la philosophie, car aujourd'hui, nous ne recevons pas Françoise Gernot, mais l'Académie de Nîmes qui vous invite le mercredi 26 mars de 14 à 17 h à la salle Jacques Théris du lycée Alphonse Daunet pour l'hommage qui sera rendu à Jean Zwaselski, qui a vécu de 1924 à 2009, qui a été philosophe et professeur au lycée d'Audet de 1951 à 1965. Cet après-midi hommage a été intitulé « L'empreinte d'un philosophe » et pour en parler, il y aura d'abord sa fille, Anne Brusmich, qui fera la biographie de son père, ensuite des témoignages d'anciens élèves, un pédagogue d'exception, et ensuite les conférences de Simone Mazoric et Pierre Guénantia, le parcours philosophique de Jean Zwaselski. Dans cette émission, nous vous proposons d'entendre d'abord Anne Brusmich, la fille du philosophe, qui est également membre correspondant de l'Académie de Nîmes, et ensuite Simone Mazoric, professeure honoraire de l'Université de Lorraine, membre de l'Académie de Nîmes et ancienne présidente de cette académie. Bonjour Anne Brusmich.
Oui, bonjour.
Alors, vous êtes la fille de Jean Zwaselski. Et l'Académie de Nîmes lui rend donc hommage et vous serez présente le 26 mars. Là, je vous ai au téléphone, merci. Et donc, vous allez présenter la biographie de votre papa qui a été professeur à Daudet donc de 1951 à 1965. C'est un peu une gageure de faire une biographie en 7-8 minutes au micro.
Oui, tout à fait. Je doute d'autant plus qu'il a un parcours assez long et complexe. Et en plus, je dirais que l'aspect affectif d'être fille ne simplifie pas les choses.
Bien sûr.
J'ai dû me mettre dans les archives familiales pour retrouver des photos et regarder et lire des courriers. Vous voyez.
Voilà. Donc
ça a été très long. Voilà.
Donc il faut venir donc cet hommage donc le 26 mars de 14 à 17 h. Alors, en quelques minutes, votre papa a vécu de 1924 à 2009.
Oui.
Et vous m'avez dit, sa vie, c'est tout de même la philosophie, c'est indissociable.
Oui, c'est indissociable. Voilà. Donc, c'est d'ailleurs ce titre-là que j'ai choisi pour présenter la biographie de Jean Zwaselski, mon père. C'est intéressant parce que sa vie, sa pensée et sa vie sont vraiment en cohérence et interfèrent. Et très tôt, Le jeune Champenois, parce qu'il est né à Châlons-en-Champagne, les Châlons-sur-Marne avant, le jeune Champenois a fait donc de la quête de la vérité et de l'amour pour la connaissance et le savoir le but de sa vie. Son parcours en est le reflet.
Il a fait
donc,
ses études.
Signaler, bon.
Oui, il a fait ses études où?
Oui, alors il a fait des études brillantes, malgré les difficultés liées à la guerre, hein, puisque né en 24, entre 1940 et 1945, c'était compliqué, d'autant plus que sa famille habitait, je dirais, à 80 km de Verdun, et toutes les guerres mondiales se sont passées dans ce coin-là. Et donc, il y a eu l'exode de Châlons en 40, hein, et donc ils sont partis, comme beaucoup de Français du nord et de l'est de la France, il y a eu un exode de la famille à Perpignan en particulier, et ils se sont retrouvés à un moment donné à Perpignan. Alors, vous voyez, faire des études, tout ça, c'était pas simple. Bon, la famille est quand même rentrée en 1941 seulement, à Châlons, mais heureusement, n'avait pas été bombardée, mais enfin bon. Donc, du lycée de Châlons en Champagne, jusqu'au lycée Henri IV à Paris, parce qu'il était très brillant, il avait été envoyé spécialement soutenu pour être envoyé, faire ses études à Henri IV en classe préparatoire.
Il avait été repéré.
Classe préparatoire, c'était 1943-45. Donc voilà, et puis les élèves d'Henri IV étaient actifs aussi au moment et de l'occupation et au moment de la libération de Paris. Bon, je passe tout ça, j'en parlerai peut-être un peu plus.
Bien sûr.
Voilà. Et puis à la Sorbonne, alors la Sorbonne entre 45, donc c'était après-guerre, au moment de la libération, la Sorbonne 45-47, et c'est là où il a connu son maître spirituel, enfin de ses premiers maîtres, le philosophe Gaston Bachelard. Il est devenu l'élève, le disciple et ensuite l'ami d'ailleurs. Ils avaient plein de points communs en dehors de la philosophie, c'était aussi le sol d'origine, la Champagne. Voilà.
Donc
Bon, en 48, oui?
vous avez eu une enfance bercée par la philosophie, j'ai l'impression.
Ah oui, forcément. Mais pas que, parce que mon père était un homme aussi divers. Hein. Il était très bon musicien, il était un artiste, il jouait du violon. Il aimait les gens. Voilà, donc il était très, très chaleureux. Et donc on recevait aussi, on a été reçus, des amis. Donc, et là, c'était justement des soirées musicales et autour du violon. Et surtout le violon, la musique de jazz, Stéphane Grappelli,
On
dont je me
écoutera
souviens, bercé mon enfance et, voilà, et ma jeunesse. Voilà.
un petit extrait tout à l'heure avant
Voilà.
d'entendre Simone Mazori qui fera une conférence donc le 26 mars. Alors, Daudet de
Oui.
51 à 65, donc 14 ans où il a fait beaucoup d'émules. Ses anciens élèves seront présents, donc vous les
Oui.
connaissez, ils ont toujours des mots presque affectueux pour votre père.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, en fait, avant Nîmes, avant d'être nommé professeur titulaire au lycée Daudet, en 48, hein, il a été nommé professeur adjoint au lycée Fustel de Coulanges à Strasbourg. Là, il suit parallèlement les cours du professeur Georges Canguilhem pour préparer le concours de titulaire d'enseignement. Et Canguilhem a été, après Bachelard, dont il fut aussi l'élève, Canguilhem est devenu inspecteur général. Et mon père ayant été brillamment
Reçu.
réussi, ayant brillamment réussi son concours, et Canguilhem étant devenu inspecteur général, le nomme alors au lycée de Nîmes. Et lycée de Nîmes, et c'est grâce à Canguilhem, parce que Canguilhem avait épousé une Simone Antériou de famille protestante nîmoise. Et
Voilà.
elle avait passé à Nîmes sa jeunesse, donc Canguilhem pensait que ce philosophe serait tout à fait approprié à la ville de Nîmes, qu'il y serait heureux. Ce qui a été le cas, donc il a fait ses débuts en 1951 comme enseignant à Nîmes. Et il a marqué de son empreinte, hein, d'ailleurs le titre
Oui.
de la communication, l'empreinte d'un philosophe. Voilà. Et puis en 1965, départ pour Dijon, puisque ma mère était d'origine bourguignonne, départ pour Dijon, où il continue son parcours d'enseignant en classe terminale, en y ajoutant un parcours aussi dans les classes préparatoires, grandes écoles, Hippocagne et Cagnes à Dijon. Après, il est nommé en 1977 inspecteur pédagogique régional dans plusieurs académies du centre-est et de l'est de Lyon jusqu'à Strasbourg. Et en 1979, il obtient le grade de docteur ès lettres pour des travaux de recherche en histoire et philosophie des sciences et des techniques. Recherches qui ont été couronnées par un prix décerné en 1985 par l'Académie des sciences morales et politiques. Et de plus, son intérêt pour les philosophies de la nature et les philosophes du XVIIIe siècle et sa conception du vivant dans le sillage de son maître Canguilhem ont fait de lui tout au long de sa vie un philosophe-chercheur, enseignant à la pensée originale et à la parole authentique, je crois, qui a été apprécié justement de la part de tous ses élèves et de ses collègues.
Et vous,
Voilà.
en tant que fille, quel souvenir avez-vous d'un homme brillant, vous l'avez dit, chaleureux, musicien? Vous avez eu une jeunesse fantastique.
Oui, enfin, il me l'a surtout appris. Il m'a surtout appris à être autonome. Et donc, je ne suis pas restée, si vous voulez, longtemps dans le giron paternel ou familial. J'ai volé de mes propres ailes. Et je peux dire que grâce à mon père, j'ai pu avoir une vie personnelle et à ma façon,
Ben
hein,
oui, je vois
puisqu'il
que
m'a
vous.
laissé vraiment libre, libre, tout à fait libre de mes choix, en ayant essayé de m'éduquer, je crois, de la façon la plus appropriée possible, justement pour que je maîtrise ma vie.
Ben oui, c'est, normalement, c'est le but de l'éducation des enfants, hein, c'est qu'ils fassent leur propre vie. Ben écoutez, merci beaucoup Anne-Brousse Mich, et je rappelle de venir vous écouter donc dans la présentation plus fouillée, bien sûr, plus approfondie de votre père, donc mercredi 26 mars à 14h. Merci beaucoup et à très bientôt.
Oui, je vous remercie, à bientôt.
Radio Alliance Plus, alors après la musique de Stéphane Grappelli au violon, que Anne-Brousse Mich nous a demandé puisque son père aimait beaucoup cette musique, c'est au tour de Simone Mazorik, donc je vous rappelle, professeure honoraire de l'université, de nous parler de Jean Zwaselski. On a toujours un petit peu de mal à dire le nom. Et vous allez prononcer donc cette journée du 26 mars une conférence à deux voix hein, avec Pierre Guénantia. Mais là, vous nous allez nous parler toute seule, hein, Simone, et vous vous axez sur l'œuvre de Jean Zwa, on va dire Zwa comme ça, qui était donc professeur, philosophe et un pédagogue d'exception. Donc, parlez-nous un peu de son œuvre.
Oui, alors, pas un peu du pédagogue avant.
Je suis en train de me dire, je ne vous ai même pas dit bonjour, Simone. Bonjour, Simone.
Bonjour, Sylviane. Oui, peut-être dire deux mots quand même, parce que ma conférence va se composer de deux parties, l'une justement sur le pédagogue et l'autre sur le philosophe, auteur d'une œuvre. Donc, peut-être le pédagogue, puisque finalement, ce sont ses talents de pédagogue, ses grands talents de pédagogue qui justifient, je crois que nous ayons choisi avec l'Académie de Nîmes de lui rendre cet hommage. Et que nous avons donné le titre, comme titre à cette journée d'hommage, l'empreinte d'un philosophe. Hein. L'empreinte d'un philosophe, il a laissé comme pédagogue, justement, à ses élèves, et nous en aurons des témoignages lors de cet après-midi, il a laissé un souvenir tout à fait, je crois, remarquable, exceptionnel. Hein, tous ses élèves gardent pour lui une grande, grande admiration, presque de l'affection.
Je vois que c'est six messieurs, parce que le lycée était un lycée de garçons.
Et voilà, un lycée de garçons. Alors il y aura peut-être un membre de l'Académie de Nîmes qui est une femme, Anne Hainaut, qui a été présidente récemment de cette académie, et qui a suivi des leçons particulières avec lui. Donc c'est une des rares... peut-être la seule femme qui était son élève, mais elle n'a pas pu venir pour témoigner. Je ne sais pas si elle sera présente, mais elle n'a pas pu venir pour participer à cette journée d'hommage. Voilà, donc le pédagogue, un pédagogue, paraît-il, tout à fait remarquable, qui obtenait des succès tout aussi remarquables de réussite au baccalauréat, et qui passionnait manifestement ses élèves, qui en parlait ultérieurement. Moi, j'ai connu donc un de ses élèves, et qui témoignait à son égard de cette admiration affective. tueuse en même temps, j'oserais dire.
Mais sur ses méthodes, sur ses relations avec ses élèves, sur son œuvre, sur...
Alors l'œuvre, je pense qu'il ne la connaissait pas. Oui. À l'époque, les professeurs qui travaillaient dans le domaine de la recherche ne faisaient pas état véritablement de leur recherche, donc je pense qu'ils n'étaient pas informés.
Oui, je rappelle, il a été professeur à Dodette 51 à 65.
Hein. Oui, donc 14 ans quand même. Donc il a eu le temps de laisser cette empreinte, de laisser cette marque durable sur ses élèves. Alors, qu'est-ce qui caractérisait ? Je pense que c'était des méthodes d'enseignement qui étaient quand même assez novatrices, assez révolutionnaires, inspirées peut-être de celui dont je reparlerai sans doute, qui a exercé sur lui une influence tout à fait considérable, c'est Georges Canguilhem, qui était un grand historien et un grand épistémologue, et qui lui aussi déjà avait été professeur dans le secondaire avant de devenir un grand professeur d'université, et qui avait déjà introduit dans son enseignement des méthodes originales. Notamment, ça paraît un fait de détail, mais ce n'est pas un détail, il supprimait l'usage du manuel. Il refusait d'utiliser un manuel, c'est-à-dire des synthèses superficielles de théories philosophiques. Il refusait les simplifications qu'implique l'usage d'un manuel. Et il utilisait au contraire toutes sortes de matériaux étrangers, c'est-à-dire des articles de journaux, des films, etc., sur lesquels il exerçait la réflexion de ses élèves.
Et il leur donnait la parole, je suppose.
Ah, ça, je ne sais pas. Ils le diront. Parce que là, je ne suis pas allée jusqu'à creuser de plus près la façon dont il intervenait. Mais je sais, il créait une ambiance de réflexion, d'émulation, de curiosité, je crois, c'est ça.
On avait envie d'aller à ses cours et il a formé peut-être plusieurs philosophes.
Ah, je ne sais pas s'il a eu une postérité. Enfin, moi, mon condisciple, on va dire, ce sera plus élégant. Mon condisciple a fait des études de philo, sans doute, sous son influence. Ça, c'est certain. Il y en a eu d'autres, certainement.
Bien sûr. Non, parce que je vois, il y a Jean-Pierre Milovanov, qui est écrivain.
Oui, il a dû susciter une émulation, une certaine émulation, une envie d'imiter.
Oui, après Daudet, il a été inspecteur.
Pas immédiatement. Il est parti à Dijon pour être professeur de classe préparatoire supérieure. Et puis, il est devenu inspecteur, voilà, dans cet ordre.
Donc, peut-être que là, il a eu plus de temps pour rédiger sa thèse, puisque sa thèse n'est que de 1979. Oui. Et c'est là qu'est un peu le début de son œuvre, en fait.
Quasiment, oui, si, grosso modo. Enfin, il faudrait que je revoie très précisément la date des articles, puisqu'il a écrit non seulement une thèse, rédigé, composé une thèse, mais il a rédigé différents articles, qui, grosso modo, doivent dater à peu près de la même période. Donc, il ne doit pas y avoir un décalage temporel trop important.
Donc, sa thèse, c'est vraiment son œuvre, en fait. C'est la référence.
Oui, quand même, oui. Les articles sont certainement moins connus. Il a écrit un bel article d'hommage à Georges Canguilhem, quand celui-ci est mort. Il y a une revue qui lui a consacré un numéro d'hommage, et il a rédigé un article à cette occasion, mais il a rédigé aussi des articles sur la philosophie, sur les conséquences, les craintes, les inquiétudes que fait naître le progrès des nouvelles technologies dans le domaine du vivant, de la biologie, etc. Voilà, donc il s'est beaucoup intéressé, je crois, à la fin de sa vie, dans les dernières années, peut-être, enfin, dans les dernières années d'activité aussi, on ne va pas aller jusqu'à la fin de sa vie, aux problèmes justement éthiques soulevés par les nouvelles technologies dans le domaine surtout de la vie et du vivant.
Il est décédé en 2009, donc depuis, il y a eu aussi beaucoup de...
Oui, je pense qu'il aurait eu de quoi s'inquiéter encore un petit peu plus. Il s'inquiétait des manipulations génétiques qui devenaient déjà envisageables, mais là, maintenant, c'est plus qu'envisageable.
Alors, sa thèse, elle était consacrée à...
Alors, le titre, c'est « L'idée de compensation ». Et il fait un historique, donc, mais pas que, puisque en réalité, il donne une chronologie, essentiellement donc deuxième moitié du XVIIIe et première moitié du XIXe siècle. Mais en réalité, il remonte bien avant, il remonte à Aristote. Et il étudie la façon dont l'idée est née, s'est développée, puis s'est estompée et a fini par disparaître. Voilà.
Alors, c'est quoi l'idée de compensation ?
Alors, l'idée de compensation, c'est l'idée que toujours, ce qu'on perd d'un côté, on le gagne de l'autre. Mmh. En le formulant de façon très simple, c'est ça. Il y a toujours une compensation. Mais alors, cette idée qui paraît toute simple, toute élémentaire, il articule sur et il la fonde sur des recherches extrêmement précises, des présentations, de théories. Cette thèse est d'une richesse d'informations absolument étonnante. Si on lit l'index, par curiosité, je suis allée consulter l'index, il y a un nombre de noms cités, et même dans sa table des matières, on voit défiler un nombre de noms extrêmement importants. Et tout ceci extrêmement présenté de façon extrêmement claire, extrêmement maîtrisée. Donc ça se lit très bien en même temps. C'est une thèse qui se lit très agréablement, mais dans laquelle ça défie le résumé. Ouais. Tellement il y a de choses et tellement c'est nourri d'informations.
Alors que c'est très exhaustif, en fait. Il a vraiment... le but d'une thèse.
Oui, mais on pouvait difficilement en dire plus, je crois. Je crois qu'il a vraiment fait le tour de la question.
Donc, vous le définissez comme philosophe, bien évidemment, mais aussi historien des idées. Plus historien qu'épistémologue. Décidément, j'ai du mal avec ce nom.
Oui, vous ne voulez pas entendre parler d'épistémologie. Oui, c'est plus... Ah oui, il y a toujours une perspective historique chez lui. Parfois, il traite de questions éthiques actuelles, donc ce n'est pas toujours selon une approche historique, mais c'est très souvent selon une approche historique qu'il aborde un certain nombre de questions qui lui tiennent particulièrement à cœur.
Et est-ce que cette thèse a eu un écho important en 1979 ?
Je ne suis pas à même de vraiment l'apprécier. Je n'ai pas l'impression que...
Vous êtes plus une philosophe des sciences.
Oui, mais c'est pareil. Je suis à la fois philosophe et historienne des sciences, c'est-à-dire exactement un créneau qui, quand même, est le même. Mais je n'ai pas vu beaucoup de comptes rendus, de citations de son nom. Ça reste un peu entre spécialistes étroits. Voilà.
Peut-être que Pierre Guénantia nous en parlera peut-être plus dans sa communication. Parce que lui, il vient aussi de Dijon, il vient de Bourgogne.
Peut-être qu'il sait mieux. Il faut peut-être compter sur lui pour nous dire quelle réception a eu cet ouvrage.
Parce que c'est vrai que c'est une après-midi d'hommage, de 14 à 17h le 26 mars, donc avec la présentation de la biographie par sa fille, les témoignages d'anciens élèves, votre conférence et la conférence du Père Guénantia. Donc après ça, on devrait avoir tout de même un aperçu global. Oui. Enfin, c'est un peu antinomique. On devrait avoir une idée assez précise de son parcours philosophique.
Oui.
Merci Simone Mazoric de nous avoir donné cet angle sur le parcours philosophique de Jean Zwaselski. Je vais y arriver. Comment vous en avez entendu parler, vous ? Parce que l'Académie donne une après-midi d'hommage. Vous, comment vous avez été appelée à vous intéresser à ce philosophe ?
Alors, je l'ai d'abord connu, si j'ose dire, par l'intermédiaire d'un de mes condisciples, j'ai déjà évoqué, à Montpellier, qui avait été son élève et qui en avait gardé un grand souvenir. Et puis, j'ai eu l'occasion de préparer une journée que l'on voulait être une journée d'hommage, préparée avec un de mes collègues de l'Académie, Olivier Abel, que les auditeurs, je crois, de cette radio connaissent bien, un hommage, cette fois-ci, à un professeur de l'Université de Montpellier qui s'appelait Francis Courtès, que lui et moi, nous avions eu donc comme professeur à quelques années de différence. Et c'est en me penchant sur les papiers de Francis Courtès que j'ai découvert qu'il avait été en relation avec Jean Zwaselski, dont j'avais entendu parler. Et j'ai voulu en savoir un petit peu plus. Et je me suis rendu compte qu'en effet, il y avait entre eux des relations amicales. Anne Brousmich m'a montré des photos de la soutenance de thèse de son père. Francis Courtès était présent. et François Dagonier aussi. Alors François Dagonier, je l'ai rencontré aussi dans la correspondance de Francis Courtès, et j'avais découvert ainsi l'existence de ce que j'appellerais une petite nébuleuse qui aurait réuni à la fois Francis Courtès, François Dagonier, Jean Svajewski et Georges Canguilhem, qui étaient en relation avec chacun d'entre eux.
Oui, c'était leur professeur. Donc voilà, il y avait un décalage de génération.
Oui, tout à fait. Et je m'étais dit, il faudrait que j'essaie de creuser pour vérifier, m'assurer qu'il y a peut-être entre eux des points communs, des choses qui les rassemblent. Et puis finalement, la journée d'hommage à Francis Courtès n'a pas pu avoir lieu. Ça a coïncidé avec l'arrivée du Covid, etc. Et ça n'était pas facile parce que son œuvre de Francis Courtès est très, très peu connue. Et donc, pas grand monde était capable d'en parler. Alors, c'est une idée qui est tombée un peu à l'eau. Mais en revanche, là, nous allons pouvoir... ce sera une façon indirecte, voilà, de rendre hommage aussi peut-être à Francis Courtès.
C'est entrée libre, je suppose. Ça a lieu à la salle Jacques Théris, donc voilà, du lycée Alphonse Daudet. Donc, voilà, le mercredi 26 mars de 14 à 17h, on apprendra beaucoup de choses. Et c'est toujours intéressant de voir des personnes qui ont un souvenir d'un pédagogue.
Voilà. Dans ces périodes, je crois, où parfois les pédagogues sont un petit peu décriés ou n'ont pas de l'audience et malmenés. Voilà, surtout malmenés. Un pédagogue d'exception et qui...
Et qui ont laissé beaucoup de traces.
Donc un exemple à suivre. Voilà.
Merci beaucoup, Simone. Et à une autre fois.
Merci à vous. Merci à vous.